T'as encore changé de place?
Oui.
Ok, d'accord. Monsieur Daniel Morin, le retour.
Oui.
Tanguy Pasturo sera là tout à l'heure et notre invité, monsieur Jean-Christophe Ruffin.
C'est pas vrai.
Le vrai.
Il a pu se libérer.
Jean, oui, c'est ça. De l'Académie française, il faut toujours le préciser, qui vient nous parler de Notre otage à Acapulco, le nouvel opus concernant Aurel, le consul. Aurel, consul. Qu'est-ce que je peux faire comme blind test? Allez-y, mettez-vous à ma place deux secondes.
Le Mexique.
Le Mexique, ok.
Non, Aurel, consul.
Consul, ouais, consul. Consul.
Bah,
consul.
Du coup, non, mais consul. Donc je sais pas, non, toutes les chansons
week-end,
du latin.
Consul, oui.
Consul, consulis.
Non, moi je dis qu'il y a une bonne piste. Là.
Leila, Buena Vista Social Club.
Non.
Dans le truc.
Cette musique.
Oui, je sais, dans le livre, on est très loin. Tu peux me parler.
Alors, si vous ne comprenez pas, chers auditeurs, c'est normal.
Oui, parce que même moi, je comprends pas.
On fait du mime.
Oui, non, il y a une évocation, mais enfin, on est.
Ouais, mais je savais pas que t'allais faire un truc sur Acapulco, moi.
Complètement. Qui chante? Ah, j'adore ce titre.
Hola, hola, hola.
Morgane, c'est Barry Manil. Ah non.
Non.
Mais oui. Je vois bien
qu'il perd naturel.
Tout en retenue, ouais.
Tu fais quoi dans la vie?
Mais qui dit bonjour? Oh non.
En fait, Elvis a tout piqué à Danny Bouillon.
Non. Tu parles comme ça.
Qui chante ça?
Oh, Daniel,
ouais.
Going loco down in Acapulco.
Bravo.
Mais qui? Mais c'est le titre, c'est ça.
Ah, je vais accepter.
Ce sont les Four Tops,
ah, bien joué.
Génial.
Non mais c'est moqueur ce que tu dis?
Non.
Non, je suis en train de noter le titre.
Ah oui, il y a un groupe.
Clairement, bah, ma chanson de l'été.
Fais-toi une compile des Four Tops.
Compile.
Tu sais ça, Acapulco?
J'ai pas pour la compile.
Je suis déjà en place sur le disque dur.
Voilà.
Non, les Four Tops, oh, ça va. Arrêter. Qui chante ça?
Wow. Jean-Michel Jarre.
Là, ça commence à devenir costaud, là.
Paul,
Gims.
Gims?
Non, pas Gims.
Si j'ai cru. À Morgan, Jason Derulo.
Joli.
Vraiment, il le dit, quoi. Jason Derulo. J'ai même pas compris, Jason Derulo.
Si, écoute bien, il le dit. Que ce qui est bien maintenant, c'est que les trois gars, les joueurs se présentent.
Ben, bonjour.
Ils sont polis.
J'ai Elvis.
Écoute.
Il a dit son nom, là?
Non, non, pas maintenant. Maintenant.
Jason.
Sexy Mona Lisa. C'est tout moi. Je pense qu'il s'est pris la tête pour écrire les paroles.
Ouais. C'est là qu'on voit qu'il a tout piqué à Julien Doré. Ça donne envie de danser quand même. Ça
donne envie de boire.
Allez là. Toujours à Acapulco pour rendre hommage à Jean-Christophe Ruffin, l'auteur de Notre otage à Acapulco, qui chante ça?
Daniel?
Oui.
Gilberto?
Ouais.
Ouais.
Bah ouais.
Mais il y en a plusieurs des Gilberto.
Ouais.
Il y a Gilberto Gil et il y a Joao Gilberto. C'est Joao Gilberto, bien joué. Acapulco, du velours.
On parle de se prendre la tête pour les paroles.
Il les a oubliés, il a le droit. Qui chante ça?
T'as encore une musique de générique de... Morgan, c'est Véronique Sanson.
Non,
une québécoise.
Oui.
Linda Lou. Non, mais pas du tout.
Cœur de pirate.
Non.
Cœur de pirate.
Non. Ah oui, Dientel.
Oui.
Dufresne.
Oui.
Moi, en même temps, je savais pas. Franchement, je te le laisse.
4 bonnes réponses pour Daniel, 2 pour Morgane. C'est ça, Morgane?
Oui.
T'en es à 2. Hein.
Oh, oui, absolument.
Ouais. Non, une seule.
Ah bon?
Pardon. Jason Derulo, c'est tout, non?
C'est ça.
Ouais, mais ça en valait 2.
Non. Donc ça fait 1 pour Morgane et 5 pour Daniel.
Et peut-être un deuxième point pour moi, pour l'honnêteté, quoi.
Tout va se jouer. Tu veux un bonbon aussi?
Oui, c'est déjà, on laisse gagner Daniel.
Attention, Acapulco, d'accord, mais qui chante ça? C'est le Super Banco qui rapporte 6 points et donc la victoire. C'est ça qui est fou. Oh,
c'est ça qui est dingue.
Daniel.
C'est un truc connu ?
La Rousseau.
Non. Non. Je pense que. Alors, on a déjà eu l'artiste dans le Blind Test.
Ah ouais. Bon. There's love in the air. Oh là. Well, can you
feel it now? There's love. C'est qui chante ce Caroline.
Oui. And that's nice. Et tu m'avais déjà fait le coup la dernière fois.
Neil Diamond.
What a beautiful noise, joli Neil Diamond, Acapulco. That's where they'll find
us.
C'est surtout une victoire de Daniel Morin et merci d'accueillir Jean-Christophe Ruffin.
La bande originale avec Nagui.
Bienvenue Jean-Christophe Ruffin, tout va bien?
Bonjour, ben très bien.
Ravi de vous accueillir pour parler de notre otage à Acapulco. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais ça fait partie des fondamentaux de cette série consacrée au consul Aurel. On voyage, on enquête, on visite énormément et on aime.
Et on tombe amoureux à fond.
On va à fond, mais tellement. Mais Ingrid,
En plus, c'est pas. D'habitude, ils tombent amoureux comme ça et il se passe rien. Mais là, il se passe quelque chose. Mais
pourquoi vous remettez votre cache-nez quand vous parlez de Rome?
Justement, elle est habillée jusqu'à la pointe des racines parce que elle n'est pas bien dans sa peau, elle se sent vieillie. Lui, il la voit comme la plus belle femme de tous ses fantasmes et de tous ses rêves. Ça se passe à Acapulco, c'est important parce que, encore une fois, il est nommé par une espèce de DRH qui lui dit, comme une punition, on va vous envoyer là-bas, mais pour ne rien faire, surtout ne rien faire.
Oh, le rêve.
Et ouais.
Il n'a pas l'air de s'en plaindre complètement d'ailleurs. C'est un peu son objectif dans la vie à Aurel, comme toujours, en faire le moins possible.
Oui, parce qu'Acapulco, ça sonne comme une destination de vacances, alors ils ont l'impression de lui faire un cadeau. En réalité, il l'envoie dans un endroit qui a été très beau et qui est toujours d'ailleurs, mais qui a un peu changé quand même.
Et qui se retrouve, oui, entre d'abord des... Et ça aussi, ça fait partie, pardon, des fils que vous aimez... manipuler en grand pantin du roman, c'est-à-dire avoir la mafia, avoir les obligations étatiques de ce que la France réclame. Il y a toujours aussi un problème de notoriété, de popularité des politiques qui est mis en jeu. Tous ces ingrédients sont à nouveau évidemment utilisés pour essayer de faire vite. C'est pas simple dans l'énigme. Enfin, il y a une Française qui a été kidnappée. Cette Française est en otage, donc d'où le titre du roman. Et cette Française est la fille d'un homme politique qui se présente à des élections importantes en France. Et il faut justement surtout ne pas faire de vagues, d'autant qu'elle n'embrasse pas les mêmes opinions que son papa.
Oui, mais c'est ça qui me plaît avec Aurel, c'est que à chaque fois, il me permet de, au fond, d'abord, évidemment, de s'amuser, de voyager, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que derrière, ça permet de jeter un petit peu un coup de projecteur sur quelque chose qui, voilà, que les gens ne connaissent pas forcément. Et cette question des disparus à l'étranger, des Français qui disparaissent à l'étranger, c'est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ignore comment ça se passe. On dit, le Quai d'Orsay vous dit, vous inquiétez pas, on s'en occupe, etc. Mais comment ça se passe? Voilà.
Et on ignore la com qui est faite mettre autour d'ailleurs. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, est-ce qu'on l'annonce à la presse ou non, est-ce qu'on le résout par des rançons ou au contraire une opération dangereuse de police parce qu'il y a des cadavres à tous les coins de rue, ça c'est évident, l'aide ou non de journalistes ou de photographes. Dans la postface, vous dites d'ailleurs que pratiquement tout est vrai. Oui. Vous rassurez certaines personnes que vous n'avez pas rencontrées en disant alors là pour le poste j'ai totalement inventé, mais c'est Bernardo et pas Guillermo qui est le photographe.
C'était mon fixeur là. Quand je suis allé à Acapulco exprès pour comprendre
non,
un peu
ce que en vacances à Los Flamingos.
Non, parce que c'est quand on est à Acapulco, on n'est pas tranquille, hein, parce que
évidemment c'est vraiment dangereux.
Ah, c'est vraiment très dangereux. C'est-à-dire que il y a en permanence des fusillades, mais à des endroits où on s'attend pas du tout. Il y a des plages. C'est ça qui est drôle d'ailleurs.
Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des endroits où on s'attend? On se dit tiens, je vais aller là parce qu'il y a une fusillade.
Oui, c'est sympa. Il y a des coins.
Ouais, mais dans ta chambre, tu t'y attends vraiment.
Non, mais il y a des coins. On se balade, on se dit oula, il va m'arriver quelque chose. Là, il fait beau. La baie est absolument magnifique. Acapulco, c'était la ville du cinéma dans les années 60. C'était là, il y avait le Festival du cinéma qui était un rival du Festival de Cannes, Festival de Venise et tout. C'était
John Wayne, Johnny Westmuller ont laissé leur empreinte et leur suite.
Oui, parce que tout Hollywood venait là en week-end. Et John Wayne et Johnny Westmuller, ils avaient acheté cet hôtel pour en faire d'ailleurs un truc privé. Ils avaient fermé au public, ils faisaient des beuveries là-dedans et tout. Johnny Westmuller, donc Tarzan, hein, le créateur de Tarzan, il avait sa propre maison qui est toujours là.
Peut-être pas le créateur, mais enfin l'interprète initial.
Le premier interprète, oui.
Et qui était un sportif de haut niveau puisqu'il avait remporté des médailles olympiques de natation.
Ouais. Mais c'est la première fois que vous prenez ce genre de, je trouve, de pincettes à la fin du roman, de précis que les gens ne doivent pas, ne vous reconnaissez pas, ce n'est pas vous dont je parle, pour les gens qui sont en poste vraiment là-bas.
Bah oui,
pourquoi? Parce que vous avez eu quoi? Des remarques sur les précédents opus et vous êtes dit je fais gaffe?
Oui, c'est-à-dire que les diplomates, ils continuent à bien m'aimer, à me recevoir dans leur... Alors, ça me permet de décrire les choses telles qu'elles sont, si vous voulez.
Parce qu'ils savent que vous venez, de ce monde-là, donc vous êtes adoubé.
Oui, mais enfin, faut quand même qu'ils m'ouvrent leur porte. Et ils savent que quand ils m'ouvrent leur porte, ils vont se retrouver dans le livre. Et par exemple, l'ambassadeur de France au Mexico en ce moment, c'est un homme absolument charmant, qui n'est absolument pas le modèle de l'ambassadeur...
Il a de la porcelaine ou pas?
Non, mais ça, c'est un autre ambassadeur qui m'a servi de modèle.
Ah, c'est ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous dites autant les postes ne correspondent pas exactement dans le roman à la réalité. Par contre, tout est vrai. Vous aimez jouer avec cette notion de tout est vrai, mais remis, on va dire, dans un même sac.
L'ambassadeur qui a des porcelaines partout, c'est un ambassadeur qui est d'ailleurs en poste ici à Paris. C'est pas un ambassadeur français, c'est un ambassadeur étranger qui est en poste à Paris et qui a des porcelaines partout, c'est-à-dire que dans son bureau, dans sa résidence, etc., vous pouvez pas faire un mouvement sans que le type vous dise,
de casser.
Attention, ça c'est un cheval chinois Ming qui m'a coûté le jet de la tête. Bon, donc
au point d'avoir remisé des pièces du mobilier, alors vous dites du mobilier de France
officiel,
ou des vrais tableaux pour laisser la place à ces
absolument
assiettes.
Absolument, parce que il y a des gens comme ça, les passionnés de les collectionneurs, quoi, deviennent fous et à partir du moment où vous en avez partout, effectivement, bon, il faut dire qu'ils perdent pas grand-chose en mettant de côté le mobilier national.
Il y a donc le kidnapping, il y a cette affaire politique, cette affaire de communication, cette affaire d'enquête, il y a dans l'intrigue la police de Mexico, il y a la mafia d'Acapulco, il y a évidemment la politique française et la communication avec la politique française, il y a Aurel qui tombe amoureux d'une élégante milliardaire veuve qui va l'admirer quand ?
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Parce qu'Aurel se met au piano et il fait du Sinatra.
C'est la métamorphose.
Ah là.
Lui qui parle assez mal, en réalité, se met à chanter superbement.
Oui.
Et surtout, il est très gêné de... Il pleut pas souvent à Acapulco, donc est-ce qu'il faut ou pas chanter ces
Oui, ils sont plus Stranger in the Night. Mais en fait, à l'hôtel Los Famigos, qui a pas changé depuis John Wayne. On a l'impression quand on est dans les chambres qu'on va voir sortir Ava Gardner. Malheureusement, c'est pas vrai, mais c'est vrai que
Lorraine Bacall.
Rien a changé. Oui, Lorraine Bacall. Mais il y a un type qui chante dans le restaurant. Et évidemment, pour moi, c'était tentant de faire ça à Aurel. Et surtout qu'il se contente pas de jouer du piano comme il fait d'habitude.
Il boit.
Piano de basse string. Il boit, bien sûr.
Mais plus du toqué. Il y a pas de toqué.
Non, il y a pas de toqué. Il fait ce qu'il... Voilà, il y a du mezcal. Ça va. Mais surtout. Il y a a tous ces souvenirs, parce que sur les murs de l'hôtel,
il y a les photos.
Vous avez les photos de Frank Sinatra, etc. Et évidemment, ils chantent ce répertoire-là, et ça c'est merveilleux, parce que quand vous êtes là-bas, c'est tellement imprégné de cette époque, des Cadillac roses décapotables d'Elvis Presley qui venaient là en week-end, quoi. Mais je l'ai mis à Acapulco parce que je juste raconte l'anecdote, mais c'est un ami qui, Pierre Lemaître, grand auteur de romans policiers que j'aime énormément et qui me donne toujours des conseils de vieux sages, il m'avait dit ton personnage, faut que tu le mettes en danger.
C'est réussi.
Voilà. Et je me suis dit, où est-ce que je peux le faire, au fond, mettre en danger mieux qu'à Acapulco, avec ce mélange à la fois de beauté, de romantisme qui est toujours là dans les murs, dans les lieux, et puis en même temps de cette présence terrible des cartels, puisqu'il y a 16 cartels qui s'entretuent. Encore hier, j'ai reçu des photos justement de Bernardino qui m'a envoyé des photos de 3 personnes coupées en morceaux, mais littéralement coupées en
morceaux.
Oui, c'est
ça, vous expliquez dans le roman qu'au-delà des cartels de la mafia qui se fait une espèce de guerre de concurrence, la concurrence va jusqu'à dans l'échelle de Richter de la violence et de l'horreur. C'est-à-dire que plus...
Le plus cruel aura le pouvoir.
Exactement. Mmh. Plus c'est horrible, plus c'est monstrueux, plus ça fait donc peur, et plus ils en imposent. Et tout ça dans un paysage en effet paradisiaque, de tourisme qui est resté scotché dans les années 50 pour ce qui est du décor, du mobilier, voire de la musique, mais qui est très proche quand même de l'actualité, puisque l'une des premières pages raconte justement un visage qui se découvre après un masque de Covid qui se retire pour bien montrer qu'on est ancré.
Ah oui, c'est aujourd'hui.
Voilà.
Mais ce qui est fascinant au Mexique, et encore plus sur la côte pacifique, et à Acapulco particulièrement, c'est ce rapport à la mort. C'est-à-dire qu'il y a la fête des morts, moi j'étais là-bas pendant la fête des morts, depuis James Bond,
depuis le
film Spectre, il y a un défilé à Mexico, ce qui n'existait pas avant. Avant la fête des morts, c'était les gens, ils allaient dans le cimetière. Mais il y a quand même cette imprégnation partout de ces visages, enfin de ces têtes de mort avec des fleurs, ouais, ce mélange. Super. Et à un moment donné, il regarde ça et il se dit, c'est un symbole même d'Acapulco, c'est ça. C'est-à-dire des fleurs, donc quelque chose de très beau, très riant, de très frais. Puis dedans, vous avez la mort, quoi. Ils engagent, les mafieux là-bas engagent maintenant des bouchers pour des tortures, pour que les gens soient défigurés. C'est-à-dire que quand ils les coupent en morceaux, ils les écorchent vifs de façon à semer la terreur. C'est-à-dire que.
Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée.
Et un bon appétit.
C'est Jean-Christophe Ruffin. Moi, je suis végétarien, donc je m'en fous. Hein, notre otage.
C'est du travail bien fait.
Ouais, Acapulco. Et c'est vrai qu'il y a toute une BO, on va continuer d'en parler évidemment avec vous, Jean-Christophe Ruffin, dans ce livre publié chez Flammarion, Notre otage à Acapulco. On est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde, à part les bouchers, évidemment.
Ouais,
si, et Morgane Tannidan. Et Morgane ne vous aime pas. Mais pas du tout.
La folle.
Non, toujours pas, Jean-Christophe Ruffin. Je vous aime pas, mais j'adore le titre, Notre otage à Acapulco. Mais moi, c'est quand vous voulez. Je préfère tellement être otage à Acapulco qu'en liberté à Paris, quoi. Puis franchement, pour ce que j'en fais de ma liberté, je viens ici tous les matins. C'est quand même une version gaucho chicos d'un bracelet électronique, quoi. Donc, allez-y, les amis. Vous qui m'entendez, je suis un super otage. N'hésitez pas. Je m'endors partout. Je pleure très peu. Puis il y a moyen de demander une rançon à Nagui, donc soyez pas con, quoi, enlevez-moi. Et ce qui s'illustre bien dans votre livre, on en a parlé, c'est que Acapulco, c'est plus que c'était. Maintenant, c'est surtout une ville prise entre deux cartels de la drogue, donc c'est ambiance règlement de compte, plaque tournante, qui, si tu en crois n'importe quel documentaire de W9, est également le cas de la Grande Motte au mois d'août. Mais là, c'est le Mexique, donc c'est un autre niveau de criminalité que Dylan à 3 grammes qui a pissé sur le parking de Tabla Pizza. Franchement, je sais pas si vous avez déjà goûté leur 4 fromages, mais Team Dylan, quoi. Bref, le Mexique. De la drogue, des cartels, reste assise Layla, notre avion ne décolle pas avant 2 mois. Mais promis, on vous fera un petit vlog des vacances juste avant de se faire canarder par la police locale. Et ça m'a donné une nouvelle idée, influenceuse illicite.
Ah ouais,
à la rentrée, j'ouvre ma chaîne YouTube, c'est décidé, genre, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. De mon côté, toujours en pleine redescente, donc franchement bof. Aujourd'hui, je vous propose un partenariat avec un cristal meth que j'adore. Il est fabriqué au Venezuela, il n'est pas coupé, c'est une super qualité. Moi, la dernière fois, j'ai fui la police nue sur un tarmac d'aéroport désaffecté sur le dos de Paul Mirabel que je prenais à tort pour une trottinette. C'était super, je recommande. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée que j'aille au Mexique tout de suite. En revanche, on retrouve votre personnalité personnage, Jean-Christophe, toujours décidé à ne rien faire. On ne sait pas si c'est un consul ou le maire de Paname. Puis plus ça va, plus je me demande si Aurel, c'est pas un peu Daniel Morin. En fait, la semaine dernière, t'étais au Mexique. Sauf qu'on ne le laisse jamais rien faire. Il est jamais tranquille, votre pauvre perso. On l'a influencé par son environnement. Il se transforme un peu, comme après un passage de Christina Cordula sur une ménagère qui allait beaucoup chez Camailleux.
J'ai eu peur.
Il devient stylé. Il joue du piano. Il s'envoie de la tequila. Ouais. Franchement, il lui manque pas grand-chose pour que je crush dessus. Musicien ayant un souci avec l'alcool blanc et le respect de l'autre, on est quand même sur la base d'une belle histoire de printemps. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, parce que clairement, le stand-up, ça s'est terminé il y a deux paragraphes, parce que être humoriste et faire une vanne sur Christina Cordula en 2022, ça veut dire que t'y crois plus trop. À quoi on reconnaît un humoriste qui cartonne, Paul ? T'as des vannes sur Christina Cordula dans ton spectacle que tu joues au Grand Rex à l'Olympia ?
Non.
Bah voilà. En revanche, moi, retrouvez-moi fin juin à Besançon.
Merci. Marvel Bédignan. En spectacle.
Et pas qu'à Besançon, ouais. La gaucho Chico, c'est à Genève le 8 avril.
Merci. Frank Sinatra. Bon, vous êtes Aurel. Il y a un moment où vous le connaissez trop bien, ce consul, pour pas qu'il y ait beaucoup de vous là-dedans, y compris dans les goûts musicaux.
Je voyage avec lui, c'est vrai. Quand j'étais là-bas, je le voyais. Puis bon, j'ai rencontré tous ces gens et j'étais avec lui. Quoi.
Il est comment ? Parce qu'on se rend pas trop bien compte, à part quand il est en slip léopard, de son physique, de sa taille.
On dit Westmuller en termes de.
Il a un petit côté dedans, mais par moments il est chétif. On se dit que c'est un petit bout de chou qui se replie dans son impair. Il y a d'autres moments.
Chaque fois, les épaulettes sont beaucoup trop larges pour lui, ça donne une idée.
Non, mais ça peut être juste, il est mal fringué, mais en même temps, il peut se déployer pour faire la roue du pan quand il veut séduire Ingrid, et il devient même physiquement, on a l'impression qu'il est différent quand il est au contact d'Ingrid ou de Martha, qui est la fille prise en otage, que lorsqu'il
est... Parce qu'il est séduisant, mais il n'est pas séduisant pour son physique. Si j'ose dire, il est séduisant parce qu'il est drôle, parce qu'il est malin, parce qu'il est généreux aussi. Il y a des choses qui le mobilisent, la justice, tout ça. C'est quelqu'un de tendre, enfin.
Mais qui a pas l'air d'avoir énormément confiance en lui non plus.
Bah non. Mais c'est séduisant aussi. Ça,
une forme de fragilité qui.
Oui, c'est ça. Il a. C'est un anti-héros. C'est-à-dire, c'est pas du tout quelqu'un qui arrive en. En tapant dans la porte du saloon.
Non, il est un peu gros, je trouve. Non, je l'imagine un peu.
Ah non, j'ai pas l'impression.
Il transpire vite, en tout cas. Il est toujours mal sapé. Oui, et il prend toujours des matières qui correspondent pas du tout au climat, en fait. Ça, c'est
oui,
un truc,
mais parce qu'il l'explique.
Il sait pas s'habiller.
Il sait pas faire une valise.
Non,
hein.
Non, ça, c'est sûr.
je suis allé en Roumanie, justement, avant Acapulco, là, pour revoir ces
comment
lieux.
Comment faisait les valises? Comment faisait les valises?
Non, il faut rappeler qu'Aurel a des racines roumaines.
Il est roumain d'origine. Il a passé ses premières années, même jusqu'à assez tard, en fait, sous Ceausescu et tout. Et il avait deux modèles pour fuir le communisme. Il y avait les films type Jean Gabin, etc., des années 60, et puis il y avait Tarzan. Et en fait, il s'est très vite rendu compte que sur Tarzan, il n'arrivait pas à... c'était pas son truc. Donc il s'est transformé en une espèce de faux Gabin avec des costumes qui sont totalement ringards en France. Mais lui, il considère que c'était ça, l'élégance, vous voyez. Et là, à Acapulco, tout d'un coup, il retrouve cette autre racine, finalement, de la résistance. Et c'est pas n'importe quoi. Il y a André Imakin, qui est mon confrère à l'Académie, qui a écrit un livre là-dessus, un roman comme ça, où il raconte qu'en Sibérie, quand il était gamin, il faisait des kilomètres dans la neige pour aller voir Belmondo jouer le magnifique. Et que c'était pour eux, finalement, c'était ça la liberté, quoi. C'est-à-dire, c'était n'importe quoi, type qui avec sa cabine téléphonique, l'hélicoptère qu'il jetait dans l'eau, enfin, des trucs qui nous paraissent fous, mais pour eux, c'était ça la liberté.
Alors, il y a une autre forme de liberté pour lui, elle est presque intellectuelle et psychologique, c'est-à-dire que les autorités n'ont pas d'ascendant sur lui. Il sait qu'il est de toute façon nommé, que si ça ne se passe pas bien, ce poste-là, c'est un haut fonctionnaire, il sera déplacé, il sera mis est placé ailleurs, donc il n'est pas dans une quête de carrière ni dans une obligation de résultat. La seule chose qui le motive, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, c'est la rigueur finalement dans sa manière d'écouter et de suivre ses instincts. Il intellectualise beaucoup, il analyse énormément les comportements. C'est ça aussi ce héros.
Oui, parce qu'il
faut arrêter de le minimiser. Il a quand même son talent et son mérite.
Ah oui, non, mais moi c'est quelqu'un que j'admire d'une certaine manière.
Et, j'espère.
Oui, mais simplement des héros de polar, il y a plusieurs types. Il y a le héros à la Sherlock Holmes qui va traquer l'indice machin, un peu mathématicien. Bon, ça c'est pas du tout son truc. C'est pas, il a aucune rigueur. Par contre, il a cette espèce d'empathie qui fait qu'il comprend les gens. Il se fonde dans leur psychologie et il comprend les choses. Et là,
et il les attire aussi. C'est-à-dire qu'il recueille des informations, des confidences, sans spécialement aller les chercher ou les demander. On se dit que en lui disant quelque chose, l'enquête va avancer, ou en tout cas, la vérité sera faite.
Parce qu'il n'est pas un policier non plus. Donc, il n'y a pas la réaction de méfiance qu'il peut y avoir quand on est confronté à un flic, ou qu'on se dit que tout ce qu'on va dire va...
Oui, d'autant qu'il n'est pas dans le jugement ou dans la punition. Il n'est pas là pour tuer, pour enfermer. Il est là pour arranger.
Oui. Et là, bon, là, cette jeune fille qui
Martha.
Martha qui a disparu, assez vite, il va comprendre qui c'est, quoi. Oui. Et personne ne comprend vraiment ce qu'elle fait là.
Ah, mais dès les premières pages, quand on lui dit une jeune fille a été prise en otage, lui, sa réaction, c'est de dire, mais elle est tout simplement amoureuse, train de boire un cocktail sur une belle plage mexicaine.
Oui, mais parce que c'est aussi ça, c'est comme ça que les choses se présentent la plupart du temps dans les ambassades. Quand quelqu'un a disparu, on commence pas tout de suite par imaginer que
le pire,
ils sont attachés. Pas juste dans les ambassades, partout. Partout, quand quelqu'un disparaît, on prend pas tout de suite.
Sauf si c'est des enfants. Toi, dans ta famille, vous avez l'habitude, mais sinon, normalement, on s'inquiète. Quoi, au bout de quelques.
On donne des nouvelles.
Non, mais
quoi.
Pas tout de suite. Si on vient dire quelqu'un a disparu, on va dire, on attend 24 heures ou 48 heures.
En tout cas, dans une ère de communication, de téléphone portable, de email, de puces traçables, ça peut inquiéter. Surtout quand on est.
Quand on est une jeune femme belle et qu'on va au Mexique, quoi.
C'est pas ce que je voulais dire.
Mais dans le bouquin, c'est ce que vous racontez un peu.
Mais le père est un.
C'est que surtout le père est un homme politique, célèbre en campagne.
Plutôt
et donc,
à droite, plutôt sur le modèle, je défends la famille, les valeurs traditionnelles.
Non, je reviens à la vieille famille.
Voilà, mais
il a des valeurs.
Non, mais c'est important.
La fille est un peu en opposition à
Border.
Ça.
Border.
Elle
est militante. Elle a manifesté dans différentes opérations, notamment pour accueillir des migrants, ce qui ne correspond pas du tout aux valeurs du père.
Du tout. Mais en fait, en même temps, le père ne veut pas que ça se sache, et donc il la décrit quand on lui demande, quand la police justement lui demande de parler d'elle, il dit non, elle a aucun problème. C'est très bien, c'est une fille formidable, etc. Et en fait, c'est petit à petit qu'on va découvrir qu'en réalité, il n'a qu'une terreur, c'est qu'elle fasse des conneries et que ça lui retombe dessus, alors qu'il est en pleine campagne électorale.
Ce consul, donc, se mêle de ce qui ne le regarde pas. On ne lui a pas demandé de faire cette enquête, mais il va attirer, comme la lumière peut attirer des papillons de nuit, il va attirer des informations, il va attirer comme ça, il va les réunir. Lui aussi, les feux de la rampe vont l'attirer, parce que d'un coup, se retrouver en concert tous les week-ends va lui donner un autre métier, une autre motivation et un autre regard. D'ailleurs, il va prendre une autre dimension. On a même le sentiment que physiquement, il change de posture, au-delà d'être assis derrière un piano. Le regard, en tout cas, des femmes...
C'est standing ovation.
Et puis la famille même de l'hôtel. Là aussi, dans la postface, vous dites bien, n'allez pas embêter les propriétaires de l'hôtel, je les ai totalement inventés, ne leur demandez pas Alvarez, demandez pas quoi que ce soit par rapport à ce qui est écrit dans le roman, mais il sera logé, nourri et servi simplement en échange des concerts qu'il va donner le week-end, et ça va attirer des foules, ça va relancer d'ailleurs cet hôtel qui était un peu
has-been.
Ouais, exactement, John. Parce que Aurel, ça fait pas assez branché, John. En tout cas, il y a beaucoup de Il y a, on peut voir deux romans dans ce roman. Il y a à la fois toute l'intrigue policière et tout le thriller, et de l'autre la visite, le plaisir des paysages, le plaisir de l'amour de ce pays et aussi de son passé.
Ça reste merveilleux. C'est ça qui est terrible, c'est que il y a cette ambiance très très oppressante comme ça. Il y a pratiquement plus de touristes, sauf des Mexicains qui viennent se balader, mais plus de touristes internationaux, c'est fini.
Ils viennent au Mexique, les Américains, les riches Américains viennent au Mexique, mais pas à cet endroit-là. Ils ont changé de spot.
Mais ça change à chaque fois. Oui. Non, mais surtout que c'est bétonné à mort. Après, ça a été Cancun, puis après, ça remonte vers le nord.
Apparemment, t'as des potes de narcotrafiquants ou quoi?
Je connais bien. Écoutez, Nagui, si vous voulez pas vous faire écorcher, comment?
Par un boucher.
Seigneur le boucher.
Ça s'appelle Notre otage à Acapulco, et j'aime beaucoup ce titre parce que Notre otage à Acapulco, c'est aussi la manière dont la presse française pourrait évoquer. On pense au cas de Florence Cassez, c'est-à-dire se dire comme ça quand une Française ou un Français est prise en otage quelque part, ça devient l'otage de. C'est toute la France qui se sont prises en otage.
Mais d'ailleurs, ils sont obsédés par celle de Florence Cassez, parce que c'est vrai que l'affaire Florence Cassez, on se rappelle, avait quand même mobilisé des présidents de la République. Hein. Ouais. C'était Sarkozy, à l'époque, le président mexicain, qui s'était affronté directement autour de l'affaire Cassez. Donc ils n'ont qu'une peur, c'est que ça recommence. Donc c'est pour ça que n'en parlons pas trop, laissons faire, etc. Ouais. L'idée, c'est on met la poussière sous le tapis, ça va s'arranger tout seul. Voilà, plus chacun qui joue évidemment sa petite partition, parce que quand un ambassadeur est confronté à ce genre de situation, c'est un peu l'occasion aussi de se faire valoir. Parce que
exactement, ou de se racheter
des bêtises qu'il a faites avant.
Exactement. Notre otage à Acapulco chez Flammarion, signé Jean-Christophe Rouvin de l'Académie française. Voici Paul Mirabel de la Radio française.
Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour tout le monde. Tout le monde va bien aujourd'hui?
Mais super. Tellement, c'est bah, écoutez, gênant.
Moi aussi ça va, juste je suis un peu jetlagué là parce que je reviens de Bruxelles.
Ah. Oula.
Ouais. Là par exemple pour vous il est 11h36, mais pour moi il est 11h36. J'ai d'ailleurs reçu un très gentil message de Guillermo Guise en arrivant là-bas qui m'a dit « t'es à Bruxelles et tu préviens pas FDP ». Et ça m'a vachement touché de savoir que quelqu'un qui a l'âge d'être mon père ponctue ses phrases par FDP, d'autant plus que comme j'ai mis du temps à répondre, il m'a renvoyé juste après « donne-moi un sujet de chronique pour la semaine prochaine, sinon je te casse les rotules ». Moi je me suis dit tiens, il est un peu en colère Ernesto, fils d'une mouette et d'une chaudière à gaz. Finalement on s'est rejoint pour regarder ensemble le match de foot de l'équipe de France, ce après quoi Guillermo a commencé à me frapper avec une table basse sans aucune raison valable. On m'avait d'ailleurs vanté qu'en Belgique les gens savaient faire la fête, et bien figurez-vous qu'on a terminé cette soirée à 22h avec une verveine. Il m'a dit il faut que je me couche tôt parce que demain j'ai mon cours de sudoku hebdomadaire. Je lui ai dit ça Guillermo, ça te regarde, mais s'il te plaît lâche cette table basse. J'ai même acheté un maillot de la Belgique en souvenir de ce voyage. Oui, je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, mais dès que je le porte, je commence à avoir le seum contre tout le monde sans aucune raison. Oui, depuis ce matin, je répète en boucle, oui, mais on méritait de gagner la Coupe du Monde alors que je suis même pas belge. Hein. Je sens même que ça déteint sur mon humeur parce que tout à l'heure, je me suis surpris à dire à Leïla, t'aurais pas 95 centimes à me dépanner, s'il te plaît? Ce à quoi elle m'a répondu, désolé mon grand, j'en ai besoin pour acheter ma bière à la poste de 13h.
Ça va pas bien.
Je lui dis ça, Leïla, ça te regarde, par contre, toi aussi, lâche cette table basse, s'il te plaît.
Elle est pas chère ta bière.
Mais ça bonne. S'il vous plaît.
Pardon, monsieur, pardon.
Mais ça fait du bien de voyager à l'étranger, ça ouvre l'esprit à d'autres choses. Je me suis rendu compte, par exemple, en allant en Belgique, qu'en tant que touriste, on est souvent chargé de clichés sans s'en rendre compte. Par exemple, j'étais avec un ami là-bas qui m'a dit en se promenant dans Bruxelles, je suis triste, on n'a pas croisé Angèle. Bah non, Bruxelles c'est petit, mais c'est pas non plus Palavas les flots. Hein. Moi, une fois, je suis allé aux États-Unis, c'est pas pour autant qu'Eddie Murphy est venu me chercher à l'aéroport. Il y a un cliché qui est vrai, par contre, c'est que les gens sont très aimables en Belgique. Par exemple, quand tu demandes une rue là-bas, les gens te la donnent avec plaisir. Alors qu'à Paris, il y a un mot pour définir ça, ça s'appelle une utopie. Également synonyme de fiction, puisque chez nous, quand tu demandes une rue à quelqu'un, on te répond « Désolé monsieur, j'ai pas de monnaie ». Une fois, on m'a même répondu en français « Désolé monsieur, je parle pas français ». J'ai dit « D'accord, Léla, pas de soucis, je comprends, c'est bientôt ta poste de 13h ».
Décidément.
Oui. C'est vraiment beau Bruxelles comme ville en plus, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. J'ai visité, je suis allé voir le Mannequin Piece, qui est une petite statue belge. Quand je l'ai vu d'ailleurs, je me suis dit exactement la même chose que quand j'ai vu Nagui pour la première fois. Je me suis dit, tiens, je pensais pas qu'il était si petit. Et surtout, pourquoi il fait pipi partout?
Voilà.
C'est d'ailleurs ça la traduction littéraire. Manneken pis, ça signifie petit homme qui pisse en néerlandais. Les traductions sont très simples. En Belgique, en l'occurrence, puisqu'aussi surprenant que ça puisse paraître, la Grand Place de Bruxelles s'intitule la Grand Place de Bruxelles. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas la Tour Eiffel en Belgique, sinon ça s'appellerait le grand truc en fer qui clignote. Je vous laisse rire, Nagui.
C'est gentil.
Je me suis amusé en plus à regarder les avis de ces monuments sur Internet, qui est une activité significative de quelqu'un qui a du temps, je suis d'accord.
Ça, ouais.
Et concernant le Manneken Pis, figurez-vous que je suis tombé sur quelqu'un qui a commenté juste en dessous « Attitude du personnage déplorable, très mauvais exemple pour la jeunesse ». Alors je savais pas que les monuments pouvaient influencer la jeunesse. Moi je comprenais pas pourquoi je me tenais droit depuis quelques jours, et c'est vrai que jeudi dernier je suis passé devant la Concorde, donc forcément ça influence un peu. Il y avait un autre commentaire en dessous encore plus surprenant avec écrit « Tenez-vous bien, véridique, je le déteste, il est vraiment trop figé et n'a aucune expression, quitte à voir un nain, autant aller à Disneyland, au moins il en a 7 ». Ah. Et c'est là que tu te dis que les bienfaits de la sophrologie ne sont pas assez véhiculés en Europe. Surtout que c'était même pas assumé comme commentaire, c'était écrit avec le pseudo G.Guise. Alors je sais pas qui c'est, mais c'est sûrement un touriste espagnol qui était de passage à Bruxelles pour croiser Angèle ou casser des tables basses. Merci tout le monde de m'avoir écouté.
Merci, Fabien. Et Paul, en tournée dans toute la France, bien sûr. Et attention, au Grand Rex, les 14, 15, 16, 17 mars 2023.
Voilà, oui. Puisque tu parlais aussi de FDP, je rappelle que la fête des pères, c'est le 19 juin prochain. Notre otage à Acapulco, signé Jean-Christophe Ruffin, ce voyage chez Flammarion, ce voyage vers le Mexique, vers une destination qui, en effet, résonnait comme le paradis il y a quelques années, et qui résonne aujourd'hui comme un lieu de cartel, de mafia, de narcotrafiquants, où finalement aussi tout le monde se tient. On sent que la politique, la police, les mafieux, les hôteliers, les restaurateurs, tout le monde connaît tout le monde. Et il faut surtout pas changer les habitudes, sinon ça explose en deux secondes et ça devient une guerre horrible.
Bah c'est pour ça que j'ai fait venir Aurel là, parce que je savais qu'il lui arriverait...
Pour donner un coup de pied dans la fourmilière.
Bah oui, et puis qu'il lui arriverait des ennuis. Parce qu'en effet, à un moment donné, bon, sans trop entrer dans le récit, mais ça va se gâter. C'est-à-dire que c'est pas seulement une enquête tranquille où il va regarder, comprendre, chercher, etc. Mais il va se faire prendre en otage.
C'est-à-dire qu'il parle à tout le monde, il se méfie pas beaucoup, et que tout se sait assez rapidement. Voilà, on va dire ça comme ça.
Et un jour, c'est lui qui se retrouve pris en otage. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on se balade dans cette ville. C'est-à-dire que à tout moment, il peut vous arriver un truc comme ça. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que si vous la visitez sans que personne vous explique rien, ben vous voyez juste des beaux lieux, etc. Et si vous êtes un tout petit peu informé, on vous dit oui, mais toi, tu trouves ça joli. Ben oui, mais regarde là, il y a des impacts de balles, il y a eu trois morts la semaine dernière. Et là, vous dites tout d'un coup, si ça se trouve, c'est moi qu'on va retrouver attaché à un radiateur. Voilà. Et je trouvais bien qu'Aurel, à un moment donné, aussi soit mis à l'épreuve de choses un peu graves, quoi, parce que c'est
le cas. Et puis il passe de la gravité à l'amour, il passe de la violence d'une prise d'otage à la sensualité d'une peau contre une autre peau. C'est vraiment il y a tout. Encore une fois, il y a ces deux axes, ces deux prismes dans ce roman qui est à la fois solaire et horrible dans toutes les tortures que l'on peut évoquer et qui sont décrites d'ailleurs. Vous ne retenez pas votre plume.
Pas dans le détail, parce que j'aurais pas. Enfin,
il y a deux trois trucs qu'on n'a pas envie de voir non plus.
Oui, parce que ça fait. Oui, c'est ça.
Mais que vous avez vu visiblement les photos de Bernardo.
Quand j'étais là-bas, il y a eu pratiquement deux morts par jour. Enfin, deux assassinats, pas forcément deux morts, ça peut être plus, parce que c'est souvent par groupe.
C'était pas lié à votre présence. Rien à voir avec votre présence.
Ben on se demande parfois. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de. Pourtant moi j'ai vu des théâtres de guerre, des tas d'endroits. Bon, j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant des années. Bon, là c'est il y a dans les guerres
il y a des règles.
Il y a une ligne de front.
Normalement il y a des règles. Il y a des couloirs humanitaires.
Il n'y a pas de règles du tout. C'est-à-dire que n'importe qui, le type qui est tranquillement assis au bord de trucs, tout d'un coup peut vous sortir un couteau et puis voilà.
On va parler
pays. On va recevoir tout à l'heure notre spécialiste, rédacteur en chef du guide du Routard. On va parler du Mexique avec Gavin Clemente Ruiz. Mais d'abord, on va évoquer justement les années où vous étiez engagé dans l'humanitaire. Et à cette époque-là, en 78, vous écoutiez... Ce qui est une forme d'engagement de humanitaire.
C'est l'engagement.
C'est de l'engagement. Pourquoi les Village People? Quel rapport entre Village People et l'humanitaire?
Non, c'est l'époque, quoi.
D'accord. Ah oui, ça, c'est l'époque, c'est sûr. Ouais. Mais enfin, il y avait Born to be Alive.
Et en 78, on vous retrouve en effet sur un théâtre de guerre en Érythrée. Mm-hmm. Vous racontez comment, à Médecins sans frontières, chacun avait une sorte de zone géographique. Vous, je crois que c'était la corne de l'Afrique. Pourquoi cette zone-là?
Bah, souvent, c'est un peu comme l'amour, c'est le premier amour qui vous, ouais. qui détermine plein de choses.
La corne, c'est comme l'amour, détaillé.
Non, de l'Afrique. Et c'est que moi, c'est la première mission que j'ai faite, c'était là-bas, c'était dans les maquis d'Érythrée, à l'époque où l'Érythrée n'était pas encore indépendante d'ailleurs, c'était l'Éthiopie. Et voilà. Et puis je suis retourné beaucoup. Ce sont des pays qui sont extrêmement attachants. Voilà. Avec Aurel, c'est drôle parce que ça me permet de sortir de mes pays de prédilection, finalement, d'aller voir un peu ailleurs. Mais c'est vrai que pendant des années, j'étais un peu ramené vers ces pays-là toujours.
Qu'est-ce qui vous a plu justement dans ces pays-là, au-delà de l'identité, de la culture, de l'histoire?
Pardon, je t'interromps. Non, ce que je trouve drôle, c'est qu'on a l'impression que c'est le consul qui l'emmène à Acapulco.
Il oublie
qu'il y est allé d'abord pour écrire. Le roman, non, maintenant c'est lui qui vous fait voyager.
Bah oui, c'est vrai. Oui, parce que je voulais le mettre là-bas parce que je savais qu'il allait lui arriver des trucs. Donc je l'ai suivi, quoi, en quelque sorte. Et de même que je pouvais pas aller dans un autre hôtel que celui-là parce que il y a plein d'hôtels comme ça sur le bord de la mer qui n'ont aucun intérêt. Celui-là, il est plein d'histoires.
Alors revenons, oui.
Ouais, la corne de l'Afrique, c'est l'Éthiopie en particulier, si vous voulez, c'est un pays où vous avez partout à tous les coins de rue, si j'ose dire, une espèce de vision biblique comme ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce pays n'a pas changé depuis 3000 ans. Pourtant, il est arrivé beaucoup de choses, mais il y a un enracinement dans une sorte de forme d'éternité, quoi. Parce que c'est un pays d'abord qui est extrêmement, qui est resté isolé pendant des siècles. Et qui est extrêmement auto-centré, c'est-à-dire qu'ils mangent leurs propres céréales qu'on ne trouve pas ailleurs, sur les hauts plateaux, le teff, etc. Et les vêtements restent traditionnels, la religion est très particulière, etc. Donc il y a cette espèce de monde suspendu, comme ça, et éternel.
Quand vous évoquez et quand Leïla parle de l'humanitaire, vous avez évoqué également les conflits, les guerres, les ambassades. On est malheureusement dans une actualité tendue, brûlante et dramatique en Ukraine, où on nous reproche, entre guillemets, d'en parler bien plus parce qu'elle concerne justement une religion qui peut être plus proche d'une religion majoritaire en France, de ne pas voir les guerres et les massacres qui ont lieu justement en Afrique ou qui concernent ou en Syrie ou en Afghanistan, et parce que là, on est à la porte de l'Europe, parce que ça concerne ce qui a été dit d'ailleurs par des journalistes américains, par des personnes qui sont blancs comme nous, catholiques comme nous, et qui ont
ressemblent à nos rues
et qui ont les mêmes voitures que nous. La phrase était dingue. Ouais. Non, mais pour
une identification,
pour toucher entre guillemets le téléspectateur et le concerner. Mmh. Voilà comment c'était détaillé. Quel est votre regard, vous qui étiez justement impliqué dans ce monde politique, dans ces ambassades qui pourraient régler finalement les conflits avant qu'ils n'explosent? C'est le rôle des ambassadeurs, c'est de se parler avant que tout explose. Et puis vous avez été dans l'humanitaire, lorsqu'on sait aujourd'hui que les couloirs n'arrivent pas à exister et n'arrivent pas à s'installer, que Médecins sans frontières comme la Croix-Rouge ont un mal fou à venir en aide. Quel est-vous votre regard sur cette actualité?
Je pense que c'est le point principal, c'est le dernier que vous avez évoqué, c'est-à-dire que c'est pour la première fois un conflit sans humanitaire. Parce que finalement, depuis les années 70, création de Médecins sans frontières, etc., la guerre avait changé dans la mesure où on y allait. C'est-à-dire que il y avait, grâce à ces ONG, une espèce de lien direct qui pouvait se faire entre tout le monde, finalement, et puis des théâtres de guerre. Les gens y allaient, ou ils y allaient directement, ou ils partaient comme volontaires dans des organisations et tout. Et là, c'est la première fois que, compte tenu de l'intensité, on est revenu à des guerres purement militaires, c'est-à-dire dans lesquelles l'humanitaire est tenu à l'écart. Pour ce qui est de l'identification, moi je pense que c'est humain et on le connaît bien, si vous voulez, dans les organisations humanitaires, quand vous faites des collectes de fonds, tout le monde sait que si vous mettez des populations européennes, quand il y avait eu tremblement de terre en Roumanie, en Arménie, ben, ça avait rendu beaucoup plus, ça avait fait remonter beaucoup plus d'argent que des conflits qui sont très loin en Afrique.
C'est pas nouveau.
Bah, c'est humain, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'identification, c'est un peu comme dans les films, c'est-à-dire que vous vous identifiez à la personne que vous voyez quand elle vous ressemble.
Et le rôle des ambassadeurs, des consuls, de ceux qui
un petit peu, Nagui, parce que je crois que les ambassadeurs n'ont jamais fait la paix, ils n'ont jamais fait la guerre non plus.
Alors pourquoi certains sont virés parce qu'ils n'étaient pas suffisamment efficaces dans leur renseignement?
Non, mais parce qu'ils sont dans les renseignements. Oui, ils peuvent donner des renseignements. Ils peuvent aussi se faire un peu prendre en otage par le pouvoir. C'est-à-dire que c'est un peu souvent ce qui arrive. C'est un peu un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire le type qui est en place en Syrie et qui va devenir farouchement pro Assad parce que tout simplement
il s'est embrigadé quoi.
Il se fait embrigader. Bon, ça c'est très courant. Maintenant, l'ambassadeur aujourd'hui, malheureusement, c'est plus à son niveau que ça se passe. C'était on l'a bien vu. D'ailleurs, dans l'affaire ukrainienne, ça se passe au niveau des chefs d'État. C'est là. L'ambassadeur, il gère tous les problèmes de base. Et notamment, comme dans mon roman, ces questions liées
de la protection du citoyen français à l'étranger.
Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment le cœur. Ils n'aiment pas qu'on dise ça, les diplomates, parce que pour eux, le consulaire, c'est un peu un domaine un peu marginal. Un peu, ils préfèrent faire de grands télégrammes géopolitiques. Mais en réalité, leur fonction principale, c'est quand même ça. C'est quand même de venir... Parce que personne d'autre ne peut le faire, ça. De venir en aide aux citoyens français quand ils sont en difficulté.
Et de régler les problèmes administratifs comme les papiers, les pièces d'identité ou la possibilité de s'envoler.
Quand vous étiez en poste au Sénégal, c'était pas simple avec le pouvoir en place. Les relations étaient tendues.
Non, mais moi, j'avais pas de syndrome de Stockholm. J'étais plutôt en résistance.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, ce que je pensais, c'était que dans la transition qui se préparait, il fallait surtout pas que la France intervienne. Il fallait qu'elle laisse jouer le jeu démocratique.
La fin de la France-Afrique. En tout cas, c'est comme ça que ça avait été voulu.
Voilà. Ouais. Mais on avait du mal. C'est vrai que c'est plus facile pour un ambassadeur d'être complaisant avec le pouvoir.
Ouais.
Prenez moins de risques, parce que tout le monde vous trouve très bien, etc. Sauf quand ça se voit trop. Hein. Mais quand vous faites comme ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire vous essayez de résister un petit peu, c'est très très difficile.
On revient au roman de Jean-Christophe Ruffin avec notre otage à Acapulco chez Flammarion. Yavins Clémenté Ruiz nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Yavins, à tous.
Rédacteur en chef du Guide du Routard avec les détails géographiques, esthétiques et chaleureux que donne Jean-Christophe Ruffin d'Acapulco dans son roman et du Mexique. Ça fait rêver. Mais avec les détails humains, tendus et policiers, ça fait peur. Alors est-ce qu'aujourd'hui le Mexique est recommandable ou recommandé?
Merci Jean-Christophe, parce que c'est quand même la seule destination qu'on ne conseille pas dans le guide Mexique du Routard. En effet,
Acapulco, vous parlez d'Acapulco.
On n'en parle pas, en effet, parce que c'est trop dangereux. On tient à nos lecteurs. Donc, bien sûr, on conseille que les
zones. C'est trop mignon.
Vous en dites quoi d'Acapulco dans le guide?
Vous savez quoi? On ne dit rien du tout. On dit juste qu'il ne faut pas y aller. C'est la place des narcotrafiquants. Il ne faut absolument pas y aller. On parle d'autres zones vraiment.
Sauf pour ramener des souvenirs, peut-être.
Oui,
même pas.
Je plaisante.
On a perdu, tu veux dire.
Non, ou d'autres souvenirs.
Ou rester dans un coffre, ou enfin bref.
C'est ça, ok. Quels sont les spots où on peut aller tranquillement au Mexique?
On peut aller à Mexico en restant un peu vigilant.
C'est pas trop pollué.
On donne un conseil, c'est de prendre des VTC, vous savez, ces véhicules géolocalisés. Comme ça, on peut savoir où vous êtes avec votre téléphone portable s'il y a un souci. Et ouais, il faut le savoir.
On sait où est ton cadavre, quoi.
Ça donne pas du tout envie d'aller voyager là-bas.
Il faut faire très attention. Ça dépend des endroits, bien sûr. Il ne faut pas non plus dramatiser. Alors, bien sûr, il faut toujours être vigilant et aller sur les sites du ministère des Affaires étrangères pour être sûr des zones. On ne conseille que les zones où le ministère dit d'aller. Bien sûr, c'est vraiment le rôle du routard. Merci Jean-Christophe de vraiment nous permettre d'appuyer sur ce point.
Enfin, moi, j'ai fait le contraire pour le préparer le livre. Mais
c'est très complémentaire. Il y a le roman, on rêve. Et puis, il y a la guide, il y a la réalité sur le terrain.
Vous parlez, par exemple, de Mexico et de la pollution, parce qu'elle est construite sur sur un lac, un ancien lac.
Un ancien lac, oui.
C'est comme une véritable cuvette.
Ouais,
Ça, c'est
5 millions de véhicules. Donc, vous imaginez tous les jours qui tournent. Ouais. Bon, bah, il y a des zones qui sont pas polluées. C'est simple. Quand on arrive à Mexico, il y a tous ces grands, ces grandes voies urbaines, ces grandes autoroutes qui circulent. On se croirait. C'est
l'une au-dessus de l'autre. C'est des autoroutes comme ça. Il y a plusieurs bretelles l'une au-dessus de l'autre. Celle du dessus étant plus chère que celle du dessous.
Est-ce que
ça va pas plus vite quand même.
Est-ce que la manière dont Jean-Christophe Ruffin évoque aussi le Mexique ou Acapulco des années 50, c'est-à-dire comme une espèce de destination de la jet-set hollywoodienne, peut-être même pour certains week-ends, parce que c'est vrai que c'est pas loin des États-Unis. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les riches Américains partent comme ça, trois, quatre jours.
Toujours, peut-être pas dans les mêmes zones. Daniel le disait tout à l'heure, c'est plutôt vers le Yucatan où on va, vers Cancun.
Tulum plus haut.
Tulum encore plus haut. C'est vrai qu'il y a vraiment.
On sent que j'ai parti à Jet Set hollywoodienne. Le mec,
le Yucatan, c'est une zone assez privilégiée, assez sympa. C'est vrai que ça se bétonne beaucoup. Il y a Playa del Carmen ou alors il y a des petites îles, Isla Holbox, qui sont vraiment sympas où vous pouvez aller vous plonger dans des eaux turquoises. Vous avez les cénotes aussi dans ces lieux-là. Vous savez, c'est des puits dans les roches avec les eaux transparentes qui filtrent à travers les lianes. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez vraiment en profiter.
Là, ça donne envie, tu vois, comme il le dit.
Les mafias s'y transportent aussi. Hein.
Aussi. Faut pas regarder derrière les hôtels, les voitures qui circulent. C'est vrai que c'est une plaque tournante pour la drogue américaine. Hein. Ouais. Y a pas de...
Alors, si on sort du Mexique et si on prend le recul que nous permet d'avoir le guide du routard, quels sont les endroits de la planète où il fait bon aller? Est-ce qu'il y a des tendances, il y a des modes?
En ce moment, si je regarde les ventes, on n'arrête pas de réimprimer beaucoup. Bien sûr, les Français vont partir en Europe cet été. Il n'y a pas de, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. La Grèce est une de nos top destinations pour l'été. Si vous avez envie, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les routards qu'il faut. Il y a l'Italie toujours, l'Espagne, ça ferait partie. Et les États-Unis qui reviennent un petit peu. On a oublié un peu l'époque Trump et on a envie de retrouver un peu la joie des grands espaces américains. Alors, il va faire chaud dans les parcs nationaux si vous avez envie, mais il reste toujours un peu New York, ça reste une destination phare.
Merci beaucoup, le guide du routard. C'était Gavin Sclémenté Ruiz, rédacteur en chef de ce guide du routard. Voici Daniel et Morin.
C'est qui? Chers amis, mon héros du jour aurait dû être le site Le Bon Coin. Mais pourquoi diable? S'écria en silence Jean-Christophe Ruffin, le diplomate, écrivain, médecin, barbouze, alpiniste, académicien, playboy mafieux, qui, une fois par an, est invité par Nagui dans l'émission qui assure aux auteurs une explosion des ventes de leurs ouvrages. Oui, Le Bon Coin, mon héros, pour la variété et la diversité de ses propositions. Pour être honnête, c'est Tanguy Pastureau qui a attiré mon attention sur l'annonce du site. Il m'a téléphoné hier et m'a dit « Daniel, tu as vu une annonce folle qui, je crois, je peux nous assurer un complément de retraite non négligeable. » Continue mon Tanguy, tu me mets l'eau à la bouche mon coquin. J'ai vu sur Le Bon Coin qu'un club échangiste était à vendre. Ça coûte 160 000 euros. J'ai l'argent, tu as l'expérience et une occasion à ne pas manquer. À mon avis, on peut faire un joli pactole. Ivre de joie à l'idée de vivre la folle aventure de l'entrepreneuriat dans un secteur polisson, je dis à mon camarade fantaisiste « Banco, mon petit salaud !» Je voyais déjà le projet de mes rêves se matérialiser devant moi. Morgane à la caisse, Leila au bar, Paul videur, Nagui en string sur un podium, en gogo danseur, Roy McEnpice.
Même pas DJ,
Tanguy et moi dans le bureau, au premier étage, au milieu des liasses de billets en train de consommer notre cocktail de débauche, le KFC, Kunyaman, Fanta, cocaïne. Et puis une petite question est venue me titiller. Dis-moi Tanguy. Oui Daniel, il est où ce club libertin? À Beauvais, dans l'Oise. Tout, c'est écroulado.
Écroulado.
J'ai rien contre Beauvais, mais j'ai rien pour non plus. Du coup, Le Bon Coin n'est pas mon héros du jour. Déjà parce que Beauvais, et aussi parce que l'actualité aussi brûlante qu'angoissante m'a sauté au visage. À 2 semaines de Pâques, Kinder rappelle ses œufs en chocolat déjà stockés en magasin.
Oui.
Motif,
t'imagines ?
La salmonelle menace.
Mais non.
Et là, c'est une course contre la montre qui s'est enclenchée. Dans moins de 2 semaines, pile à l'entre-deux-tours de la présidentielle, une bactérie risque de priver la France de lapins, de cloches et de la marque Ferrero. Ça veut dire quoi concrètement? Eh ben je vais vous le dire. Ça veut dire des enfants qui pleurent. Des enfants qui pleurent, ça veut dire quoi? Ça veut dire des parents qui n'en peuvent plus. Des parents qui n'en peuvent plus, ça veut dire quoi? Des parents qui ne vont pas voter. D'après de sombres projections, on estime qu'une pénurie de Kinder pourrait provoquer une abstention de l'ordre de 88%. Cataclysme démocratique. Mais n'oublions pas, n'oublions jamais à qui nous avons affaire. Ferrero,
Ferrero, c'est pas des tocards. Ferrero, c'est, je vous le rappelle, les soirées de l'ambassadeur.
Mais évidemment.
C'est un gage de qualité, bon, de sérieux et de savoir-faire. Et c'est pas, j'en suis sûr, une petite protéobactérie qui mettra à genoux ce géant du chocolat qui, depuis si longtemps, comble de joie les enfants et avant lui, leurs parents aussi. Alors, oui. Oui, vas-y, mon Ferrero. Fais-les les tests pour assurer le monde. Fais-les et reviens dans les rayons de magasin. Reviens plus vite, reviens plus haut, reviens plus fort. Reviens à donner du bonheur au monde pour que le 17 avril résonne Orbi et Orbi, les rires de joie des enfants qui résonnent comme un hymne à la carie dentaire. J'ai confiance en toi, Kinder Surprise, Mini Kinder, Kinder Bueno, Kinder Happy, Kinder Mix, bref, toute la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon héros, c'est Ferrero. Alors en cas de doute, vous pouvez toujours appeler le 0800 65 36 53 à Lapin Chocolat. On répondra.
C'est fou. Merci Daniel Morin. Leïla est tétanisée par l'information.
Ah ouais, ouais, ça va être compliqué.
Non mais t'imagines, c'est
le numéro est bon, hein, tu peux
appeler. Ouais, d'accord.
Déjà, c'est une crise sanitaire ou un véritable problème, mais alors la période, c'est que
c'est Noël, le timing.
Noël et Pâques, tu dis.
Tout ça après les pizzas en plus.
Oui, c'est ça, après les pizzas.
Pizza horrible.
C'est ça, c'est ça. Ferrero, c'est eux qui font Nutella aussi.
Ouais.
Attends de voir qui a encore un problème avec le Nutella.
On peut plus manger aucune saloperie. Quoi.
Au-delà de l'huile de palme. C'est ça.
Mande de merde.
Justement, Tanguy, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Je veux parler d'un fait divers. Oui, un fait divers au Canada. Une femme a été retrouvée morte dans un sac de sport. Oh. Vous voyez, le sport, ça tue. N'en faites pas.
La conclusion.
Merci. Sport, ça tue. Heureusement, Jean-Christophe Ruffin est notre invité pour égayer tout ça. Et nous allons évoquer avec lui notre tâche. Notre tâche à Acapulco, même. Il y a aussi des belles images. Tout ça chez Flammarion, ça sera après les infos. C'est la bande originale avec Léa Cadeau-Boudelli, Morgane Bellignan, Paul Mirabel, Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invité Jean-Christophe Ruffin. Publié chez Flammarion, notre otage à Acapulco, c'est la même semaine à peu près aussi que chez Folio, en format de poche. Les énigmes d'Aurel le Consul sortent un nouvel exemplaire du flambeur de la Caspienne. Donc on voyage, il voyage beaucoup, votre consul Jean-Christophe Ruffin. Mais c'est évidemment vous qui le faites voyager, les destinations sont toujours un mélange de lieux entre guillemets touristiques et politiques tendus.
Bah oui, de préférence, parce que c'est vrai que je l'emmène pas trop.
Tahiti n'aurait pas d'intérêt, vous voulez dire? Enfin, en même temps, Tahiti, c'est la France, donc je sais pas s'il y a des consuls.
Ah, je pense qu'il y aurait des choses à faire, à dire sur. C'est pas exclu que je le mette là-bas un jour.
Ah,
maintenant qu'il s'est habitué au maillot de bain, on peut peut-être.
C'est ça, léopard.
Il y a des destinations un peu imaginaires. Il y a aussi eu des destinations un peu fantasmées. C'est une sorte de
Luxembourg.
Oui, Luxembourg, qui n'était pas vraiment du Luxembourg, on va dire.
Ouais, mais ça, c'était pendant le Covid. C'est vrai que le problème de cette époque, de cette période qu'on a vécue, c'est qu'on pouvait pas voyager. Quoi.
Et vous avez besoin d'être sur le terrain pour voir votre personnage vivre.
Oui, parce que moi, je suis dans l'école SAS, si j'ose dire. J'ai bien connu Gérard Devilliers. Il m'avait proposé de lui succéder pour écrire les SAS.
Mais non.
Je me rappelle que je venais d'avoir le prix Goncourt. Je lui ai dit, écoute, je peux pas, quand même, c'est difficile, c'est pas pareil. Et il avait eu cette phrase formidable. Il m'avait dit, moi, je suis enchaîné dans une mine d'or. Et il me dit, j'en fais 4 par an. Il faisait les voyages, il allait sur place. Et il écrivait ses bouquins. Et il m'a donné cette règle, finalement. Bon, j'ai pas retenu beaucoup de ses conseils par ailleurs, parce que j'écris pas des SAS. Mais, allez voir. Et quand on raconte quelque chose, parler de quelque chose qu'on a vu et qu'on connaît. Mmh. Et même si on transpose, c'est pas grave, vous avez vu quelque chose à un endroit, vous pouvez très bien dire que c'est ailleurs, enfin, c'est changé, mais y aller et voir.
Il faut dans les ingrédients de vos romans qu'il y ait, alors je pense à ça avec SAS, un moment sexuel ou sexué en tout cas.
Alors dans
plutôt
SAS,
fort.
C'était très systématique. Moi,
il y avait d'autres mamans autour.
C'est ça.
Mais d'ailleurs, je sais même pas si c'est lui qui faisait ça, parce qu'il avait des. Il y avait tout un atelier, enfin, tout autour. Mais lui, il faisait toujours.
Il y avait une équipe d'auteurs qui écrivait
les
parties
sexuelles.
Oui, il y avait
des gens avec lui.
D'accord.
Sur les
torts. C'était organisé, quoi, comme une rédaction.
Très organisé. D'accord. Et lui, il allait sur place.
Vous parlez quoi, des orgies ou vous parlez du roman?
il était particulier quand même un peu. Mais il allait voir.
Il se documentait, quoi.
Il se documentait. Mais c'était étonnant parce que les gens se retrouvaient. Moi, j'ai vu des endroits, je me souviens, au Nicaragua, je suis passé peu de temps après lui. Il avait fait un bouquin qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, un truc à Managua, je sais plus comment ça s'appelait, mais bref.
Il devait y avoir un jeu de mots, en tout cas, dans le titre.
Oui, il y avait un jeu de mots, oui, oui, toujours avec une fille, qui s'est mitraillée.
Avec des gros seins, et un short qui est pas du tout à sa taille.
Non, et tout.
Je crois qu'on a lu les mêmes.
Qui avaient lu le bouquin, se reconnaissaient. C'est-à-dire qu'il était allé à tel endroit, etc. Il avait dormi à tel endroit, paf, il mettait ça dans le livre.
Donc c'est ce que vous avez retenu de cette expérience-là. Mais ouais. dans les rebondissements de votre roman, il y a en effet la description locale, il y a le côté géopolitique, la géographie et la politique mélangées, le thriller aussi, le suspense, l'enquête, mais il faut aussi qu'il y ait des rebondissements, et souvent les rebondissements arrivent par les êtres humains. Oui. C'est pas des découvertes d'un tiroir caché dans lequel on aura forcément une lettre ou un indice, non. Mais ce sont les rencontres qui font tout.
C'est ça, c'est un type de polar qui est vraiment basé sur la psychologie, sur les rencontres, sur les descriptions. En fait, c'est très romanesque. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quand même ma carrière surtout dans de la littérature générale. Hein, c'est le prix Goncourt, etc., avec des livres, j'allais dire, tout à fait classiques. Donc, j'ai été formé, j'ai fait le chemin inverse de beaucoup. Hein, il y a beaucoup d'auteurs qui partent du polar et qui vont vers la littérature générale. Je parlais de Pierre Lemaitre tout à l'heure, Daniel Pennac, Piccoli, etc. Ils ont fait ça. Moi, j'ai fait le contraire. Je suis parti de la littérature générale. Je continue d'ailleurs à en faire, mais j'ai voulu aller voir un peu le polar parce que je trouve que c'est une école de rigueur formidable parce qu'on vous pardonne rien dans le polar. Si ça tient pas debout, mais ça, c'est pas possible. Le lecteur, il vous lâche.
Et vous écrivez comment? Est-ce que la structure de votre roman est prête avant que vous commenciez? Vous savez exactement comment il va finir?
J'écris vite. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup la structure. Pour moi, c'est très fascinant. Mais après, je saurais pas dire. Je fais une structure d'ensemble.
Donc vous avez un plan et vous savez où sont les rebondissements.
Pas trop détaillé, parce que si vous faites un plan détaillé, vous avez plus envie d'écrire le livre. Alors moi, je fais un plan par acte, comme dans un théâtre. Okay. Le premier acte, il va se passer ça. Deuxième acte, il va se passer ça. Troisième, bon.
Puis et après, vous savez comment. Et pardon. Et avant de le commencer, avant de l'écrire, vous savez comment il finit.
Oui, oui. Ah bah oui, parce que sinon, faut aller quelque part. Sinon, c'est compliqué.
Non, mais de la même manière que vous parlez de votre personnage comme étant celui qui vous emmène en voyage, alors que je rappelle que c'est l'inverse, hein, des fois que vous posiez la question, Jean-Christophe, peut-être qu'il vous emmène aussi dans des bas-fonds ou qu'il vous emmène dans des rebondissements auxquels vous ne vous attendiez pas, parce que à ce moment-là, dans cette scène-là, vous avez envie qu'il y ait un rebondissement et vous rajoutez.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'on ne fait pas ce qu'on veut. C'est Patrick Rambaud qui raconte ça quand il avait écrit La Bataille, c'était le livre qui avait eu le prix Goncourt. Il a voulu faire une suite. Et puis il racontait, il dit, il y avait un personnage, je voulais le garder, mais il est tombé de cheval, il est mort. Alors j'ai pas pu. Bon, c'est vrai qu'on fait pas ce qu'on veut. Cela dit, on est quand même un peu maître de l'affaire, surtout dans un polar, je dirais. Parce que comme le polar, c'est une affaire de structure, et que la structure s'impose à vous. Je trouve que c'est une très très bonne école et moi je recommande à beaucoup d'écrivains, même de littérature générale, de se soumettre à cette discipline parce que on peut pas se tromper, quoi. Faut pas se tromper. Si on se trompe, c'est une catastrophe.
Il a peut-être des pantalons trop courts, il a sûrement des chaussures qui vont pas avec le reste, il a la veste froissée, mais c'est un consul qui fait des enquêtes avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'humanité aussi, et de psychologie, et en plus, il interprète Frank Sinatra comme personne au piano, il séduit Ingrid, tout ça dans un paysage de rêve, de paradis, mais entouré de cartels, de narcotrafiquants, et avec cette prise d'otage en toile de fond, notre otage à Acapulco, chez Flammarion, c'est le nouveau Jean-Christophe Ruffin. Voici Tanguy Pastureau.
Le nouveau Pastureau. J'ai horreur de la violence. Voilà, je me confie, comme ça vous en saurez un peu plus sur moi, parce que là, si demain je meurs, vous aurez quoi à dire pour mes funérailles? Oui, Tanguy était bon au blind test, notamment les chansons allant de 1988 à 1988. C'est nul, quoi. Bref, je déteste la violence. Pour moi, le film Rocky 1 idéal, ça aurait été que Rocky dise à Adrienne, tu sais quoi, frapper Apollo Creed n'a pas de sens, d'autant qu'on va devenir amis dans les suivants. Spoiler. Hein, puis-je travailler avec toi dans ce charmant magasin d'animaux? Bon, et Rocky 2, on l'aurait vu en train de nourrir une portée de chasse, elle aurait filé des allergies, donc il aurait couru en jogging dans toute la ville jusqu'à la pharmacie, suivi par des nuées de gosses en train de crier le sport c'est mieux que la drogue. Et puis moi j'aurais réalisé un Rocky vegan qui s'entraîne pas en tapant sur des carcasses de porc mais sur des plantes quinoa. Parfois il entendrait aïe, il y aurait un petit péruvien qui sort du quinoa en disant je me suis caché là pour émigrer aux States car Brown tout m'a fait bobo. Eh ben je sais, je comprends pas pourquoi j'ai pas percé Hollywood. Hein, mais non, moi la violence ça me débecte, y compris la violence psychologique. Avant-hier j'ai pris un taxi, le type m'a dit vous aimez Corneille, j'ai répondu bah oui, quelle hauteur Cyrano de Bergerac. Paf, il a mis Chéri FM, la violence, je me suis farci Texas, De Palmas, Corneille. À un moment il y a eu Marc Lavoine, j'ai fait yeah, rock'n'roll. Autre violence, j'ai lu hier que Valérie Pécresse, la queen du 9-2, avait appelé Sarkozy, parce que dans son meeting dimanche, des gens ont sifflé son nom. Ouais. Ce qui prouve que dans le public, il n'y avait pas de juge, parce qu'il l'adore, hein, il les fait travailler. Mais Sarkozy n'a pas répondu, on est à J-5 du scrutin, il ne la soutient toujours pas. Si ça se trouve, il a disparu. Un Carla cherche peut-être depuis un mois sous les coussins des canapés, en disant tu t'es quand même pas mis là-dessous, c'est là que je planque le shit. Non, il la prend même plus au téléphone, mais c'est une violence. Moi, Nagui, quand je vous envoie un SMS, au moins vous répondez, vous me dites qui est-ce, j'ai pas votre numéro. Je déteste la violence. Je serais incapable, par exemple, de tuer quelqu'un. Voilà, c'est pour ça qu'hier, quand j'ai lu dans la presse cet article intitulé « Une femme démembrée retrouvée dans un sac au Canada », j'étais horrifié, parce que c'est affreux, les gens démembrés. Il y a 15 ans, quand on dansait la tectonique, j'arrivais déjà pas à regarder. Alors, je vous raconte l'histoire. Auditeur pointrice, si tu es à table, prépare-toi à vomir dans ton assiette. L'avantage, si tu manges du hachis parmentier, étant que ça ne se verra pas. Il y a quelques jours, à Toronto, ville qu'on pourrait décrire comme charmante, si jamais elle l'était, un promeneur voit traîner un sac de sport dans la rue. Il l'ouvre, le truc que moi, je ne ferai jamais parce que j'imaginerai toujours qu'il y a un corps dedans. J'ai vu beaucoup trop de films avec Anthony Hopkins. Lui donc dézippe le sac, pousse un bon dieu de son rep, c'est quoi ce bordel? Parce que dedans, il y a une femme, mais en Tetris. Alors en Tetris, quand vous avez perdu. Hein, en fait, elle est en morceaux. Il y a un bras ici, une jambe là-bas, la tête, enfin Pablo Picasso redit, bah quoi, c'est une femme, c'est tout. Bon, la police arrive, ne voit pas qui c'est, forcément elle est en morceaux. Daniel Morin est revenu ce matin de son Covid, lui aussi est en vrac. Bah tout à l'heure, je lui ai demandé, es-tu un stagiaire de troisième dont les cellules auraient vieilli de manière prématuré. Bon. Et là, un des policiers remarque que la victime a, je cite l'article, un vernis à ongles particulier, comme les filles de la Côte d'Azur. Ils repartent avec la main sous le bras, pas le sien, la leur, montrent la main dans les salons de manucure, et ça match. La victime est une certaine Tien Li qui était manucure, c'est pour ça qu'elle avait de super ongles. Hein, y a toujours des indices sur une personne. Si on retrouve un corps avec dans la poche du pantalon 90 capsules de bière, on pourra dire il s'agit de Jean Lassalle. Donc la police réalise vite que Tien Li a un fils de 20 ans, Dallas Lee qui devient suspect principal. Ils se disent il a dû la tuer parce qu'il lui reproche de l'avoir appelé Dallas, hein, qui est le deuxième prénom le plus à la con pour un garçon après la bourboule. En plus, je le dis pour les jeunes, en fait pour Paul Mirabel, le seul ici à ne pas avoir ni de dentier ni d'andropause. Dallas, donc c'était une série. Hein, ça revient en France après nommer son gosse Plus belle la vie. Bon, c'est ridicule. Alors, fin de l'histoire, Dallas est arrêté. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit pourquoi il avait fait ça. Sa mère, elle est décrite comme une femme qui adorait son fils et travaillait très dur pour l'élever, mère exemplaire, ces mères qu'on admire tant, comme l'a dit le poète, tonton David, il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle, ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Oui. Bon, et là, j'ai arrêté de lire l'article, hein, et je me suis dit, bon, tuer sa mère, c'est pas bien. Hein. Si vous faites ça, il y a Belzébuth qui vient vous chercher avec sa fourche, ou un paysan de la Nièvre qui essaie de se faire passer pour Belzébuth afin de passer une soirée piquante. Mais la démembrer, c'est fou. Moi, une fois dans un resto de poisson, j'ai vu le cuistot découper un homard vivant en deux, mais j'avais déjà envie de chialer, surtout que ce homard avait été présenté avant au client qu'il avait choisi. Bonjour, je suis l'homard. Bonjour, moi c'est Jean-René, ma femme, Christine. Enfin, c'est terrible la vie de homard. Tu rates tout tes castings. Hein, je pense que quand il y a des comédiens qui chouinent. Enfin bref, une pichenette, je trouve ça violent. Donc un matricide avec démembrement, ça me paraît plus qu'abstrait. Et sinon, moi dans Hulk, j'aurais mis un monsieur vert, mais très calme, quoi. Une sorte de biopic de Yannick Jadot. Allez, peace and love.
Merci. Tanguy, qui sera le 14 avril au Casino Barrière de Toulouse.
Oui, je voyais l'œil briller de Jean-Christophe Ruffin en se disant « Ah, c'est pas mal l'enquête autour d'un ongle dans un sac de sport pour
oui,
retrouver... »
Oui, oui, oui.
Quand même,
oui. Mais je pense que Tanguy est mûr pour la roman policier.
Pour l'écriture. Pour l'écriture.
Il part quand même avec la main faire le tour des salons de manucure.
Tout qu'il a écarté.
Mais c'est vraiment le fils qui a tué sa mère?
Eh ben oui.
Non, il est soupçonné à présomption d'innocence.
Oui, il est soupçonné.
Ah, c'est voilà, bon. Attention.
Demande à Daniel, parce qu'il est le cousin. Il est le cousin. Il est cousin de la mère, donc c'est pour ça.
Meurtre infâme d'une femme.
Elvis.
Qui rend l'âme. C'est mes qui.
Non, il y a McDonald's aussi.
Ah,
j'ai pas pensé à la femme découpée McDonald's. C'est peut-être pas une bonne idée de mettre les deux côte à côte. Notre otage à Acapulco, c'est l'actualité culturelle du moment chez Flammarion, signé Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. D'autres événements, Leïla.
Oui, on va parler de James Bond qui débarque sur Amazon Prime, mais sous quelle forme d'après vous ? Ça sera pas un film.
Une forme humaine ? un dessin animé ?
Ni un dessin animé.
Un audiobook.
Non plus.
Un podcast.
Non plus. Un documentaire.
Non plus.
Un jeu vidéo.
Un jeu. Alors, c'est un jeu pas vidéo.
Alors, un jeu
sonore. Un escape game.
Non. Ah. Ça va un peu plus loin que ça.
Un jeu.
Un jeu télévisé, un jeu d'aventure. Hein, en fait, ça va être une sorte de Pékin Express.
Un Fort Boyard. Ah, un Pékin Express.
En 8 épisodes. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir donc des équipes de 2 qui vont se lancer dans une course autour du monde pour gagner en cash 1 million de livres sterling, soit environ un peu plus d'un million d'euros. Des lieux iconiques, historiques, des films de 007 et l'aventure est partie. Voilà pour la création de ce nouveau jeu autour de la saga James Bond.
C'est super.
Ça peut être complètement fou.
Faut les moyens de le produire, mais c'est une bonne idée.
Ah ben voilà, c'est ça.
Le producteur.
Mais non, mais c'est-à-dire que quand tu vois les hélicoptères, oui, les Aston Martin, enfin tous les équipements de James Bond, tu dis.
Les Bahamas, Monaco, Luxembourg,
c'est ça.
L'idée, ça sera des tests sur leur endurance, leur stratégie, avec sans doute des énigmes à résoudre. Alors on ne sait pas encore quand ça va sortir, ça n'a pas commencé à être tourné, ils sont sur le casting, sans doute avec plein de contraintes. Est-ce qu'il y a un héros célèbre, Jean-Christophe Ruffin, que vous aimez en particulier ?
L'inspecteur Gadget.
Dora l'exploratrice.
Je faisais un petit décroche sur la villa arabesque, parce qu'il y a un des James Bond qui s'appelle Permis de tuer, en fait, qui se passe à Acapulco, dans une villa qu'on peut visiter. C'est assez compliqué, puisque bon, il faut des autorisations et tout, mais elle est intacte, et c'est un endroit absolument génial, quoi. Enfin, c'est
comme la villa d'Ingrid, en fait.
Mais c'est juste à côté, en fait. C'est dans ce coin.
Il va finir par donner l'adresse, code d'entrée du portail.
Est-ce qu'il y a un héros en particulier que vous aimez ? On a parlé du côté anti-héros d'Aurel, qui le rend très attachant. Est-ce que c'est ce genre de personnage-là que vous aimez ?
Ouais. Bon, moi, je suis peut-être resté sur D'Artagnan et les héros.
Et même pas Tarzan. C'était vraiment.
Et Tarzan. Ouais.
C'est un héros. C'est pas vraiment.
Ouais.
C'est
un
héros.
Ouais.
Les films de Tarzan, c'est sa vie.
On est d'accord.
C'est un petit peu le. Ouais. Enfin, Tarzan. Non.
Il
les a pas tous faits, hein, après. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il avait picolé pas mal, il avait le ventre. Ouais. Donc, quand il prenait une liane, si vous voulez.
La liane craquait.
C'était plus crédible du tout. Donc, ils l'ont changé, ils ont mis un Tarzan. Bon. Non, Tarzan, moi, c'est pas. Puis, je pense pas que ça irait très loin, les jeux vidéo.
Et est-ce qu'il y a une déclinaison possible d'Aurel? Adapté au cinéma, bah,
pour l'instant,
série.
C'est en cours de réflexion, oui, mais ça, en tout cas, pas moi qui fais ça.
Hein, c'est une envie que vous avez ?
C'est plus qu'une envie, il y a des contacts autour de ça, mais moi, vous savez, on ne peut pas faire tous les métiers. Moi, j'en ai déjà fait beaucoup. Alors, j'écris des romans. L'avantage, c'est que quand on écrit un roman, on est tout seul, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Quand on écrit un scénario, par exemple, je voyais l'autre jour Bambi, ils étaient 4. Eh ben, j'ai pas envie d'être un des 4 scénaristes de Bambi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, parce qu'il y a trop de gens qui s'occupent de ça, donc moi je ne m'en occupe pas. Et...
C'est-à-dire que vous êtes un ancien ambassadeur qui veut arrêter les compromis?
Non,
c'est parce que je travaillais à 4 sur un scénario, c'est un tel bonheur de des choses.
Ouais. Non, mais vous voyez, c'est un tel bonheur de pouvoir créer son histoire sans avoir de contraintes, ni de contraintes financières, ni de.
C'est paradoxal parce que vous avez Aurel qui ne travaille pas entre guillemets en équipe, mais qui a besoin des autres quand même pour avancer et qui ne peut rien faire seul.
Oui, mais moi non plus. Mais les autres. Les autres, j'interagis avec eux pour plein de choses, quand je voyage, quand tout ça. Mais après, au moment d'écrire l'histoire, bah, l'histoire, je suis dedans et puis je suis un petit peu le chef, quoi. Voilà. J'ai pas envie d'avoir un producteur qui me dit, faut que tu mettes ça.
Elle est chef de la culture,
et on
Leïla.
Continue. Une autre question. Ouais. Selon une étude récente, les jeunes passent 6 fois plus de temps sur qu'à à vous de remplir les trous.
Sur écran.
Sur les toilettes.
toilettes.
Il croit plus de temps sur les toilettes que je sais pas, non.
C'est une interro-culture.
Bah, dans culture, il y a ture.
Il ouais, y a forcément, un truc avec les écrans. Hein. Oui, ils passent plus de temps sur leurs écrans qu'à parler à des gens, que dehors, qu'à dormir.
Sur lire. Sur YouTube.
Sur, ah, ça, c'est une qu'à lire, absolument. Ah, c'est ça. Ils passent plus de temps sur Internet qu'à lire.
Alors, l'étude. Oui, enfin, c'est pas une info, ça.
Bah, si, parce que vous allez voir la proportion. La proportion, elle est intéressante. C'est une étude qui a été faite à partir de. Sur un panel de 1500 jeunes de 7 à 25 ans. Les sondés déclarent lire des livres à peu près 3h14 par semaine.
Ah, ok.
Et passer 2h50 par jour sur Internet.
D'accord.
Soit 6 fois plus. Alors, selon l'âge, la proportion change. Chez les élèves de primaire, le temps sur Internet est 60% supérieur au temps de lecture. En revanche, chez les étudiants, il est près de 8 fois supérieur. Mmh. Constat par rapport à la lecture. Comment on fait pour renouer avec la lecture? Comment est-ce que. En tant que vous, papa, comment vous avez fait pour.
Moi, c'est un désastre total. J'ai, sur 3 enfants, il y en a. Non, si, j'exagère. Maintenant, ils lisent, mais j'ai eu beaucoup de mal.
Au début?
Oui, oui. Mais moi, je ne suis pas si désespéré que ça, parce que je vois dans les salons du livre, partout, il y a des jeunes qui viennent et qui. Je pense aussi que ça dépend ce qu'on leur propose à lire, quoi. Je ne suis pas si désespéré. Avec ça. Et si vous voulez, avant, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas tout ça, je ne suis pas sûr que tout le monde lisait. C'est-à-dire que les gens, ils faisaient autre chose. Ouais. Mais
ça vient plus tard, la lecture. Ça vient quoi? Ça vient d'une rencontre? Ça vient d'un bouquin?
Je pense surtout que ça touche Oui, alors ça peut venir plus tard. Et puis, ça ne touche pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a une sorte de choix, quoi, de panel très large. Puis, il y a un moment aussi où on se rend compte, par exemple, pendant le confinement, les gens, ils étaient beaucoup devant les écrans. Mmh. Et puis, ils en ont eu marre au bout d'un moment. Et quand les librairies ont rouvert, ça a été, ça a été un succès incroyable. Ouais. Les gens sont précipités dans les librairies parce qu'ils trouvaient quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément trouvé quand ils étaient H24 devant leur écran.
Et chez Flammarion, donc, notre otage à Acapulco, signé Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Des excuses à présenter, Daniel Morin?
Oh, des excuses, déjà, désolé pour Jean-Christophe Ruffin. J'ai reçu des fax de patrons de cartel. Oui, des fax, ils parfois fonctionnent sous fax. De cartel de la drogue. Ils n'ont pas été complètement séduits par votre bouquin. Alors, service public oblige, hein, je leur ai donné, bien sûr, votre 06, votre adresse, votre digicode. Allez, so long et excellence. Désolé pour les fans du charismatique, du mystérieux, du beau gosse Jean-Christophe Ruffin. Je vais vous dire, je vous préviens que par mimétisme avec son héros consul Aurel, Jean-Chris est venu en slip léopard, lunettes de soleil et tongs. Alors slip léopard, Jean-Christophe, pourquoi pas? Mais s'il te plaît, par dessous le pantalon. Désolé enfin pour les fans de Jean-Christophe Ruffin qui auraient adoré qu'Aurel devienne le héros d'un film au cinéma. Alors il l'a dit, il veut pas de contraintes, hein, il veut pas réécrire Bambi non plus. Alors oui, c'est clair, les amis, il est devenu feignant, JC, votre héros, il veut plus en foutre une.
Avec une nouvelle destination sûrement peut-être déjà calculée, vous avez déjà écrit le suivant ou
Non, je viens juste de celui-là, je l'ai écrit cet hiver et voilà, Non,
mais je vous l'avais dit. Hein,
et vous savez, vous avez envie d'aller pour d'emmener Aurel ou du moins où Aurel va vous emmener.
Oui, je pense qu'il va m'emmener au Liban. Là, il va m'emmener au Moyen-Orient et je profite du fait qu'on peut de nouveau voyager. Et ça, alors j'espère que ça va durer. Je voulais l'emmener plus vers l'Asie et en ce moment c'est pas encore très facile. Donc
Et les pays où il fait froid, c'est pas trop votre truc, j'ai l'impression. Hein.
On verra. Non, mais pour l'instant.
Pas d'Islande, pas de Finlande, pas de Norvège, pas de Suède.
Si, ça viendra. Ça viendra, mais okay. Enfin bon, on verra.
Acapulco, en tout cas, lieu paradisiaque, mais dans des circonstances très tendues dans le monde des narcotrafiquants et avec ces prises d'otages, il y en a plusieurs sans divulgâcher ce qui se passe dans le roman. Jean-Christophe Ruffin, notre otage à Acapulco. Merci Jean-Christophe, bonne journée.
Merci
le roman
beaucoup.
Est publié chez Flammarion. Je le rappelle demain. Gustave Carven et Benoît Delépine pour une formidable comédie au cinéma, mais les carnets de campagne, c'est maintenant.
Ah oui, bonjour les amis.
Ça va. Oui. J'étais pas sûr que vous soyez là.
Si.
On fait quoi aujourd'hui?
On va à d'autres chameaux. Et figurez-vous que le métier de chamelier est en train de faire son retour en France. Dis seront
enfin
son retour.
Enfin.
Ouais, dans les Landes.
Le remplacement, c'est parti.
Ça bosse dur. Hein.
Joli.
Et je suis pas prêt.
Tout ça pour nettoyer les plages de l'Atlantique, c'est
une drôle
d'idée.
Les chameaux nettoient les plages.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
super.
Ouais.
Et arrive. Parfait. Ouais, merci, voilà. Le cycle de la vie. Merci. Bonne émission, Philippe Bertrand.
Salut.